Bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour cette rencontre avec Laurent Mauvignier, qui ce soir va nous parler de son septième livre qui vient de paraître aux éditions de Minuit, comme les six précédents d'ailleurs, cinq romans et un dialogue. Cinq romans dont le premier, Loin d'eux, apparu en 1999, donc il y a maintenant 10 ans. Donc 10 ans d'un travail qui se poursuit, 7 livres en 10 ans. On va peut-être parler de ce rythme qui est peut-être maintenant un rythme de croisière. Et un travail, une écriture qui a tout de suite été saluée dès qu'elle est arrivée aux yeux des critiques et des lecteurs. Et tout de suite, on a mis en avant une particularité de ton travail. C'est pas toujours le cas. Il arrive qu'on découvre des écrivains, qu'on les porte au pinacle et qu'il soit question de tout sauf d'écriture. En l'occurrence, ce qui a été mis en avant très vite, tout de suite, c'est cette question de l'écriture, du style. Alors après, on pourra définir les nuances et les définitions de chaque terme. Mais bon, en tout cas, il a été question de cette écriture et aussi de cette façon dont le récit se mettait en place à travers une forme que tu n'as pas du tout inventée, mais qui est en tout cas chez toi une marque de fabrique assez... assez présente, c'est celle du monologue. Bien, alors, un monologue, une langue particulière, et également, on va dire, une évolution de ce travail du monologue, parce qu'il est vrai que, dans les débuts, ce monologue, tel qu'il apparaît, par exemple, dans le Loin d'eux, il n'a pas du tout la forme qu'il a aujourd'hui. C'était un monologue où les êtres qui parlaient venaient au devant de la scène, et puis parlaient d'eux-mêmes. Maintenant, de plus en plus... on a l'impression que le monologue que tu utilises contient des enchâssements, contient des entrecroisements. Le récit et les paroles s'entrecroisent à l'intérieur d'une seule parole qui est prise en charge par un narrateur. Alors j'avais envie de te demander, pour commencer cet entretien, il me semble, tu disais dans une interview il y a quelques années, je crois que c'était au moment de Seul ou Ceux d'à côté, je ne sais plus, qu'il y avait des écrivains qui étaient des écrivains du plan large, pour employer une métaphore cinématographique, et d'autres qui étaient des écrivains du gros plan. Et maintenant, avec ce travail où tu arrives dans des travaux d'écriture qui t'amènent du côté de la foule, qui t'amènent du côté de l'histoire collective, est-ce que tu serais toujours... Tu conserverais toujours cette partition entre écrivain du plan large, écrivain du gros plan, et est-ce que tu es toujours un écrivain du gros plan ?
Alors, je vais essayer de parler dans le micro avec la bonne distance. Voilà. C'est bon là ou ouais ? Non, je veux. Non, il y a un nom. Il paraît qu'on ne m'entend pas. Bon, là comme ça va, c'est mieux ? Ouais ? Bon. Bon, répondre à cette question-là, répondre à la question du gros plan et du détail agrandi, on va dire, mm-hmm. et du plan large, pour continuer dans l'image, dans l'aspect cinématographique. C'est vrai que je fais moins le distinguo, mais en fait, de toute façon, j'avais tendance, moi, à ne pas le faire. C'était dans un entretien, et c'est vrai que c'est des réponses comme ça qui sont... qui sont faites pour essayer de clarifier des choses, alors qu'en fait, dans le travail de l'écriture, ça ne se pose pas aussi de manière aussi abrupte. Enfin, du moins pour moi, hein, je parle comme mon nom, je ne permettrai pas. C'est vrai que plus je me pose la question de, par exemple, de l'histoire et du collectif, mais en même temps, j'ai quand même l'impression que je le fais toujours sur le mode de l'intimité et de donc c'est vrai que. C'est vrai que cette question-là, pour moi, la frontière, elle s'efface. Mais en même temps, quand je pense une scène, par exemple, si je vais penser une scène, y compris une scène qui serait dans un espace très très large, je vais avoir tendance à compter si je devais faire un truc sur la dune de Pila, par exemple, j'aurais quand même tendance à compter les grains de sable. Ouais. Je fais plutôt partie de ce clan-là. Et alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, au contraire, sont dans le panoramique tout le temps, quoi. Alors, évidemment, comme on a tendance à vouloir aller à faire ce qu'on ne sait pas faire. Du coup, évidemment, moi, on m'a tellement parlé du côté, justement, intimiste. Vos scènes dans les cuisines, formidable. Alors, c'est vrai qu'à un moment, on dit, bon, j'aimerais bien faire un livre où il n'y a pas de scène dans une cuisine, par exemple. Alors, donc j'essaie de faire... Mais j'y arrive pas, je crois que... Je suis sûr que si on cherche bien, même dans des hommes, il y a bien peut-être une cuisine qui se... quand même, quelque part. Mais... Voilà, c'est un rapport à des c'est un rapport à des espaces. Alors c'est vrai que la tendance est quand même toujours d'aller un peu contre ce qu'on a déjà fait ou contre ce qu'on fait. Donc moi c'est vrai que j'ai tendance à aller de plus en plus de plus en plus vers quelque chose que j'ai pas fait. Mais le problème c'est que même d'imaginer quelque chose de large, c'est même pas en le pensant comme ça, c'est en le pensant sur le rapport au collectif, le rapport à l'histoire, etc. Je pense quand même comme expérience humaine, individualisée d'abord. Et je pense comme un romancier, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai quelques personnages et j'essaie de les déplacer dans un espace. C'est d'abord ça ma problématique, en fait.
Et justement, à partir du moment où cet espace, on va dire, depuis Dans la foule, qui est donc ton précédent roman paru en 2006, donc qui en fait, se déroulait dans le cadre de cette tragique finale de la Coupe d'Europe des clubs champions au stade du Heysel en 85, je crois. À partir du moment où tu t'es inscrit dans cet espace beaucoup plus large, et on a un autre espace qui est plus large aussi, spatialement, avec ton dernier livre, historiquement, chronologiquement et dans l'espace aussi. Est-ce que la nature de ton travail a changé véritablement à partir du moment où tu dois te débattre avec justement ce cadre et cet espace-là?
J'en sais rien, parce que... Parce que je ne sais pas ce que c'est que la nature de mon travail. Et que j'ai...
Est-ce que tu as d'autres problèmes? Est-ce que tu rencontres
d'autres... Ah, mais d'autres plein d'autres problèmes.
...nouveaux, avec justement, les liés à ce changement, justement, de...
Non, de ça, c'est, pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est plutôt une... Ce qui se passe, c'est que d'un livre à l'autre, évidemment, il y a des choses que techniquement, je sais faire, que je ne savais pas faire avant. Donc, évidemment, quand on commence à se dire, tiens, ça, techniquement, je sais le faire... l'intérêt c'est pas de le refaire, c'est de faire quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas fait. Ou moi j'ai toujours envie de faire un livre que je sais pas faire, quoi. J'ai envie d'écrire quelque chose que dont je me dis a priori je vais pas y arriver, parce que je sais pas, pour telle ou telle raison, peu importe, mais l'impression de, en tout cas, de je ne veux pas dire de me mettre en danger, parce que pour moi, ce n'est pas ça, se mettre en danger, quoi. Mais en tout cas, ouais, essayer de déplacer quelque chose. Puis ça dépend des livres. Ce livre-là, pour le dernier, pour des hommes, à un moment, je me suis juste dit, bon, voilà, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je fasse ce livre-là, parce que celui-ci, ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'écrire. Je ne sais pas si j'avais spécialement envie d'écrire ce livre-là, mais un livre qui tourne autour de la question de la guerre d'Algérie, du rapport à cette histoire familiale qui pour moi est là derrière, qui est quelque chose de très intime et qui touche pour le coup quelque chose de l'ordre du détail, puisque ça touche les photographies, une boîte de chaussures, et voilà, c'est quelque chose de l'ordre vraiment de l'intime. Et en même temps, à partir du moment où on prend conscience que l'intime et le collectif, qu'on est des êtres historiques, qu'on est des êtres liés indéfectiblement à un contexte, voilà, moi j'ai la question, c'est d'essayer de brasser tout ça et de et là, voilà, pour moi, c'était le moment d'affronter avec ce livre-là, c'était le moment.
D'ailleurs, le livre, pour parler des hommes, le livre commence dans un épisode, on va dire, relativement intime, puisqu'il se déroule dans la ville, dans la petite ville, le village, qui a déjà été représenté dans tes livres de manière plus ou moins fugace. En l'occurrence Labassé, hein, ça se déroule bien dans cette petite commune. Et il était déjà question de Labassé aussi dans le livre précédent. L'un des personnages venait de cette ville, et il était aussi question de Labassé dans le premier, ouais. Dans Loin 2. Et est-ce qu'il fallait pour autant, est-ce que c'était important pour toi donc d'ancrer ce voyage, on va dire, donc, en pays de mémoire du côté justement de ce pays qui est également, peut-être tu vas nous en parler, un pays natal, et que c'était important de partir de là pour faire ce voyage?
Ben, disons que la réutilisation de Labassé, c'est vrai que dans La Foule, c'était un projet qui était le projet lié au drame du Hesel. C'est vrai que c'était un projet qui était très vaste, alors qui me faisait un peu peur, et donc j'avais autant besoin de d'élargir le champ que paradoxalement qu'en contrepoint, disons, le ramener vers quelque chose que je connaissais un peu, donc le ramener, voilà, de cette espèce de village, de petite ville que j'avais déjà utilisée, et puis qui était pour le coup basée sur simplement mon village d'enfance qui s'appelle pas Labassé, mais enfin voilà, peu importe, mais de me rebaser sur des points comme ça. Et puis là j'ai voulu garder ça parce que je me suis dit, mais finalement Labassé, ça a été cette espèce d'identification géographique personnelle et intime. Donc continuons sur cette lancée-là parce que c'est tous les villages de France, quoi. Ces espèces d'endroits traversés par une route, voilà, la route entre deux villes, quoi, avec une église moyennement jolie et le café en face et tout ça. Enfin, ouais, ce qu'on connaît tous, quoi.
Et donc partir de ce village et faire ce voyage depuis donc ce lieu connu, faire ce voyage collectif à partir, toujours pareil, à partir de l'histoire très singulière, partir donc d'un incident familial. Et
oui, mais là c'est vrai que là pour le coup j'avais vraiment besoin de quelque chose, enfin j'avais besoin, disons que je ne savais pas faire autrement en fait. Mon problème c'est que quand ça faisait il y a deux choses là-dedans. D'un côté, ça faisait des années que je voulais écrire sur mais c'est pas, je peux pas dire que je voulais pas écrire sur la guerre d'Algérie. J'ai rien à dire sur la guerre d'Algérie. Par contre, j'ai à dire sur les appelés, ceux qui ont été mes voisins, je peux parler de mon oncle, je peux parler de mon père, je peux parler de ceci, cela, des gens que j'ai vus. Je peux parler de l'onde de choc que j'ai pressenti quand j'étais enfant, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours profondément perturbé, dérangé, intrigué et presque exalté aussi, parce que quand on est enfant on a envie de se raconter des histoires sur ses parents. Et moi je me souviens que les photos de mon père, les photos de la guerre d'Algérie, enfin, qui n'étaient pas des photos de guerre, qui étaient des photos, donc les photos très banales de jeunes hommes de l'autre côté de la mer. En plus, la Méditerranée, moi, il n'y avait pas du tout la Méditerranée par chez moi, donc c'était l'idée pas seulement de la mer, mais c'était l'idée du bleu, c'était une idée qui faisait rêver pour un enfant. Mmh. Quand vous habitez un village du centre de la France qui est un espèce de non-lieu, dans le sens où c'est rien, il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a rien. Et donc vous avez ces photos qui d'un seul coup sont une espèce d'appel, comme ça, vous dites tiens là il s'est passé quelque chose, là il s'est... Et puis vous regardez sur les images, en même temps il n'y a vraiment rien de... Simplement votre mère vous dit, si il s'est passé des choses, tu vois, ton père il a vu ça, il ne veut pas en parler... Et effectivement, j'ai pu constater que mon père n'en parlait pas. Bon. Et donc ça a été pour moi une motivation. Et en même temps, pendant des années, du coup, une impossibilité de travailler autour de ça. Et au moment où je me suis senti prêt à écrire le livre, quand j'ai commencé, Au départ, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer, voilà, placer des jeunes gens en situation 1960, voilà, ils sont appelés, ils vont en Algérie, voilà. Bon. J'y arrivais pas parce que je me suis dit, mais au fond, c'est pas ça qui m'intéresse. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est toujours la même chose, c'est à savoir comment, comment le passé ne passe pas, comment on se remet pas de certaines choses, et puis d'interroger, moi, ce que j'ai vu, finalement, qui était de dire, tiens, mais pourquoi les gens de 60, 65 ans sont comme ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne se dit pas? Alors, pour moi, c'était ça. Donc, je me suis dit, je vais commencer aujourd'hui, ou à peu près aujourd'hui, début 2000, on va dire. Et je me suis aperçu qu'une autre raison qui faisait que je n'arrivais pas à élargir le champ, pour le coup, c'est que j'avais peur d'affronter la question de la guerre, la question de la violence. Et puis donc après, bon, j'imagine on va en parler du rapport de la fiction à le conflit dit guerre d'Algérie ou événement ou ce qu'on voudra. Voilà comment on fait avec ça. Et moi, pour moi, ça c'était et tout le cheminement des personnages, du narrateur au début. On met 100 pages pour arriver en Algérie dans les années 60, et moi j'ai mis 100 pages pour arriver à prendre mon petit truc et à essayer de le déplier simplement. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir un petit tas de papier, mais c'était bien plié, il fallait ouvrir comme ça, déplier au fur et à mesure. Et évidemment, plus on ouvre ce genre de choses, plus on est pris d'une peur invraisemblable. Parce qu'il ne s'agit pas que de faire un roman, et là, d'un seul coup, ça touche des gens, ça touche des mémoires, c'est très sensible, c'est très... Donc voilà, moi, je voulais... et j'avais très peur de le faire, et là où je suis quelqu'un, pour le coup, plutôt du détail, c'est que je sais qu'il a fallu passer par la façon dont un personnage dit « Ah tiens, vous le mot arabe, c'est quand la première fois vous avez vu un arabe ?» J'aurais jamais pu entrer directement dans la matière. Il fallait vraiment que je fasse tout un détour. Alors le détour était encore plus long que ça, mais bon, quand même, j'ai un peu écourté. Mais pour moi, c'était très compliqué d'arriver à avoir l'image, par exemple, on pourrait ouvrir si on continue sur l'idée d'un film, on pourrait ouvrir, la Joliette, la Méditerranée, tac, et on y va.
Un bateau qui apparaît.
Ce que je fais d'ailleurs à un moment, mais il me faut 100 pages. Moi, il me faut 100 pages pour arriver à ça, parce que pour moi, c'était une façon de. C'était aussi un rapport au temps, c'est pas qu'un rapport à l'espace. C'est une façon de montrer comment ce passé agit au présent. D'ailleurs, toute la première partie qui est censé être aujourd'hui, est écrite au passé, et puis toute la partie qui se passe dans les années 60 est écrite au présent, parce qu'il y avait ce rapport à la photographie, et puis parce qu'il y avait ce rapport au traumatisme, dans l'idée de quelque chose qui surgit, et qui ressurgit, qui attaque, et qui ne passe pas. Et donc pour moi, l'idée du présent, c'était une idée de quelque chose de très... frontal, quoi.
D'ailleurs, puisque tu parles de ce temps qu'il t'a fallu pour entrer dans le cœur de ton sujet, on peut peut-être parler du découpage du livre, qui est quand même assez singulier. C'est un temps qui est très resserré. On a quatre périodes qui font même pas 24 heures. Hein. Je crois que c'est après-midi, soir,
nuit et matin.
Et matin. Pourquoi est-ce que ce découpage aussi resserré, justement, alors que tu décolle sur 40 années de travail de mémoire, comment est-ce qu'il s'est imposé?
Mais mon problème, en fait, c'était le flashback. Je voulais pas faire un flashback, je voulais que le flashback soit perçu, non pas... Parce que justement, quand on repense au cinéma, quand on voyait des flashbacks, c'est souvent assez ridicule. Ça a ce côté, d'un seul coup, le type, il a les yeux dans le vague, comme ça, et puis il y a une espèce de flou qui se fait, puis remember avec le sépia, les photos sépia, tout ça, d'un seul coup, c'est joli, tout ça. Alors je voulais pas du tout faire ça, je voulais au contraire faire quelque chose, une fois encore, qu'il soit du surgissement, je voulais que le passé, ce soit pas un souvenir, quoi, je voulais que ce soit un présent, qu'on se prenne de manière... très 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 forte, et puis aussi qui est puisqu'il s'agissait de parler de la mémoire, je voulais montrer comment l'après-midi, ben, il se passe le temps d'un après-midi, c'est-à-dire 3 heures, voilà, bon, il se passe 3 heures, il se passe le soir, voilà. Et la nuit, qui était vraiment le moment de l'insomnie, en fait, du narrateur, le moment, comment ben, 28 mois peuvent cohabiter, peuvent vivre dans une nuit, comment 40 ans peuvent s'annuler dans une nuit, comment on a un temps, ben, le temps des montres et des horloges, et puis comment on a un temps qui est celui de la mémoire, qui est celui du souvenir, et qui est celui de la douleur aussi, de la culpabilité, du remords. Pour moi, c'était, voilà, c'était une façon de mettre ça en évidence.
Et pour ce qui est du dispositif d'écriture, tout à l'heure, on évoquait ton travail justement sur les monologues. Ici, la quasi-totalité du récit est prise en charge par un personnage qui est Rabu, hein, donc, qui est donc le cousin du personnage dont il est question au début du livre. Ce personnage, il parle cette langue qui est la tienne maintenant depuis un certain nombre de livres, mais en même temps, avant qu'il soit véritablement question de lui, c'est-à-dire à la fin, là où vraiment on va entrer véritablement dans l'intériorité du personnage, ce Rabu va parler de son cousin Bernard, de Feu de Bois, et en réalité, on dit oui, bon... le récit à la première personne, tout ça, le récit est très peu à la première personne, finalement. On est dans un monologue qui fait l'économie pratiquement de la première personne dans une grande partie du livre.
Bah, disons que dans la première partie, le narrateur parle de son cousin. Dans la seconde partie, dans la partie vraiment algérienne, on est dans une sorte de on collectif des... Voilà, c'est... on a fait ça, on a fait ça, on était là. Bon, enfin, on est là, on fait ça.
Mais on n'a pas perdu la locution de toujours de.
Voilà.
De
et puis, sinon, à la fin, on a un autre personnage qui parle. On a fait février, mais qui est rapporté par. Donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est moins du monologue que du récit à la première personne, peut-être par rapport au premier livre.
Et du coup, on retrouve aussi quelque chose que je pense existe dans d'autres livres, c'est que. Il y a un personnage, bon, on l'entend parler quelquefois, hein, ce Bernard, ce Feu de Bois, celui par qui le scandale familial arrive et celui qui va provoquer justement ce glissement dans le passé. Mais c'est pas lui qui. C'est pas lui. Lui, il peut pas prendre en charge le récit. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre.
En fait, au début, j'avais fait un prologue où on avait le. Bon, appelons ça le personnage principal, qui voilà, qui était un prologue où on l'entendait lui vociférant comme ça, furieux, etc. Puis en fait, ça marchait pas, et je me disais mais pourquoi ça marche pas ? Et ça marche pas parce que au fond, pour que il fallait une parole qui soit tenue par quelqu'un d'autre que celui qui a été ravagé, quoi. Moi, ce que je voulais donner à entendre, c'est comment il y a des gens qui ont été cassés, et comment cela, ce qui est perdu d'une parole, se retrouve pas. Ce qui est perdu d'une parole, on peut dire qu'on la redonne. Moi, c'est pour ça que je suis toujours gêné quand on me dit à vous donner la parole aux gens qui ne parlent pas, aux gens qui se sont tus. C'est pas vrai. Leur parole, elle est perdue. Elle est définitivement perdue. Et on peut juste essayer de faire parler ceux qui ont conscience que la parole autour d'eux est perdue. Mais la parole directe, ce qui est perdu, est vraiment perdu.
Alors, ce qui est quelque chose qui est très important de dire aussi, sans dévoiler l'histoire, parce que c'est quand même important, je pense, de laisser aussi la découverte du récit pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais il y a une dynamique qui fonctionne dans cette relation entre les deux personnages. Donc, Rabu, ce sont des gens qui ont une soixantaine d'années, puisque le récit, bon, on imagine, se passe au début des années 2000.
2000, ouais.
Ils ont à peu près le même âge, à un an près. Et il y a une histoire très compliquée entre les deux, une histoire avec une terrible hostilité. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a comme il y a un point de départ, hein, à cette violence, et ce point de départ va avoir un point d'écho pendant le conflit algérien et justement va refaire basculer le récit une deuxième fois. Et je voudrais peut-être, pour donner une petite idée de ce que c'est que ce rapport entre les deux personnages, tu lises un petit passage, un court passage, dans lequel... Justement, il est question, c'est après, il s'est passé donc un épisode compliqué, douloureux, après cette fête d'anniversaire. Donc, on va quand même donner deux, trois axes. Non, c'est une fête d'anniversaire familial. Rabu, en tant que personnage raisonnable, est invité, comme tout le monde. Mais il y en a un qui n'est pas invité, c'est Bernard, Feu de Bois. Et puis, il débarque là-dedans. Et puis, il va faire un geste qui va faire tout basculer. Et plus tard, il aura un autre geste à l'encontre d'un personnage algérien, d'origine algérienne, un geste très violent. Et c'est à partir de ce geste-là que le récit va basculer du côté de la guerre d'Algérie. Et donc, dans un court passage, ça donne une idée assez, assez forte de ton, à la fois de ce travail d'écriture et puis du rapport entre les deux personnages. Là, si tu peux.
Qui parle?
C'est Rabu.
Alors,
on est chez Solange après les grosses bêtises qu'a faites Bernard Feu de Bois.
Je veux dire, je comprends pas ce qu'il a fait pour que tous vous le preniez comme ça, avec une telle méfiance. C'était pas le pire de mes frères. C'est Solange qui parle, c'est la sœur. Loin de là. C'est ça que je comprends pas. C'est juste que très jeune, il savait se battre et qu'il aimait se bagarrer. C'est vrai, ça c'est vrai. Et faire la morale aux autres aussi, peut-être. Peut-être qu'il était grande gueule, comme tu dis. Mais enfin, c'est tout. Non, Solange, c'est pas tout. Tu t'en souviens pas de ta sœur ? Et lui en train de se curer les ongles avec la pointe de son canif pendant qu'elle était dans son lit et qu'elle allait mourir ? Tu te souviens pas de ce qu'il disait, là, comme ça, que c'était une salope et que c'était bien fait pour sa gueule et... Non, Rabu, arrête ça. Et Solange se levant d'un mouvement brusque, laissant sans y prêter attention l'eau bouillant dans la casserole, que Nicole est allée éteindre avant de nous servir, Solange glissant vite vers sa chambre, au fond du couloir. J'ai regardé Nicole qui avait la tête penchée sur les tasses qu'elle remplissait d'eau, en regardant l'eau, le fond de la tasse, le sachet qui gonflait dans la tasse, et on entendait ce bruit de l'eau qui tombait dans les tasses comme l'eau des fontaines, et la fumée aussi, le bruit du fer quand Nicole a reposé la casserole sur la gazinière, et son soupir, son regard vers la porte et Solange dont on avait entendu qu'après être entrée dans sa chambre et avoir ouvert le buffet, elle s'était mise à chercher et à remuer tout un tas de papiers. Ce qu'elle a cherché, elle ne l'a pas trouvé. Et elle est revenue vers nous, l'air déçue, pas en colère, mais blanche et triste aussi, si fatiguée de devoir continuer à parler lorsqu'une lettre aurait tout dit à sa place. Et lorsqu'elle est revenue, c'était en marmonnant. C'est le seul de tous mes frères et sœurs, et c'est le seul, et aussi pour dire, combien de fois elle a écrit tous les regrets qu'il avait, parce que quand il était jeune, il croyait les sornettes des curés sur le mariage et tout ça. Il ne savait pas ce que c'est la vie. Il ne savait rien de la vie. Il n'avait pas compris, il me l'a écrit ça, et plus d'une fois. Rennes, oui. Pour Rennes, il s'en est mordu les doigts d'avoir voulu sa mort et dit des choses méchantes. Et tous ceux qui ne disaient rien et n'en pensaient pas moins, ceux-là, crois-moi, Rabu, ils dorment mieux que toi et moi parce que pour eux, une gamine de 17 ans qui meurt comme ça, c'est qu'elle l'a cherché. Et en ce temps-là, c'était comme ça, voilà ce qu'ils diront. Et je... Pourquoi on parle de ça ? Pourquoi je te parle de ça ? Je ne veux pas parler de ça, tout ce vieux temps. À quoi ça sert, ce vieux temps ? Rabu, à quoi ça sert de parler de ça ? Bernard, il est comme il est. C'est le seul à ne m'avoir jamais laissé tomber. Je sais pas, Solange. Je sais pas pourquoi on parle de ça.
Et donc, vous avez assisté à la scène de cuisine.
Il y en avait une. Et donc, cette scène, elle aura un écho dans la ville d'Oran, dans un bar, puisqu'il va y avoir... De nouveau, ça s'est passé bien avant, 40 ans auparavant, évocation de cette même scène où Bernard Feu de Bois donc, avait assisté à la mort de sa sœur et impitoyablement l'avait accablée alors qu'elle était en train de mourir. Et c'est ce qui va déclencher donc, une bagarre extrêmement violente entre les deux. Et alors maintenant, puisque pour parler de ce qui s'est passé en Algérie, en tout cas pour ces personnages-là, c'est vrai que la question qui se pose pour le lecteur, pour celui qui observe le travail du romancier, c'est comment est-ce que tu as pu à la fois t'imprégner de ce qui a été cette réalité historique de la guerre d'Algérie. On rappelle que tu es né quelques années après sa fin. Comment est-ce que on peut faire un travail qui soit ancré dans cette réalité-là, si forte, si délicate à manier, comme tu le disais tout à l'heure, et en même temps ne pas faire œuvre, on va dire, de reconstitution sépia, du documentaire, puisqu'il y a un débat actuellement sur qu'est-ce que peut ou ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire avec l'archive. Qu'est-ce que toi tu as fait de l'archive pour arriver à en faire ce matériau romanesque ?
Mais moi d'abord j'ai commencé par j'ai lu beaucoup, j'ai essayé de lire beaucoup de fiction. Et il y a quelques fictions quand même, notamment sur la guerre d'Algérie. Et je trouve que le problème, c'est qu'à chaque fois, on veut expliquer la guerre d'Algérie, dire voilà les uns, les autres, etc. Et moi, j'y trouvais pas mon compte là-dedans. Je me disais, mais en fait, de toute façon, prends quelques personnages, reste avec tes personnages et... Et voilà, il ne s'agit pas de dire le bien, le mal, il ne s'agit pas de dire la vérité, il s'agit simplement de faire état d'une expérience qu'ont pu vivre des gens à un moment donné. Et c'est pour ça, par exemple, là, le passage que je viens de lire, ce passage qui est, je veux dire, qui a priori dans le livre qui sert deux fois, dont on parle deux fois. On va en parler genre 150 pages plus loin, et c'est juste un déclencheur comme ça, mais moi ce que je veux simplement, ça me permettait de dire que l'histoire, la grande histoire ou l'histoire, elle se fait pas sans la petite histoire, elle se fait pas, les gens quand ils arrivent à un endroit, à chaque fois, on nous montre, voilà, c'est des jeunes de 20 ans, comme s'ils n'avaient jamais rien vécu avant, ce qui n'est pas vrai. Quelqu'un devant la même scène ne réagira pas de la même manière selon ce qu'il a vécu, selon qui il est, etc. Et moi, ça, je voulais intégrer ça. Je voulais dire, voilà... et par exemple, dans tout ce que j'ai pu lire sur les appelés en Algérie, c'est beaucoup étaient des... Beaucoup étaient des fils de paysans, parce que quand même à l'époque en France, il y a un vrai milieu rural. Et que ce qu'ils ont découvert là-bas, d'abord ils étaient très surpris, ils ont vu la mer, ils ont eu des choses qu'ils connaissaient comme ça, mais qu'ils n'avaient jamais vues. Et puis ils ont découvert des gens qui étaient aussi des paysans, quoi, en face d'eux, donc ça c'était la surprise. Et, donc, avec la situation, l'idée de ne pas savoir ce qu'on fout là, etc. Bon. Moi, je voulais essayer de poser simplement ces choses-là et de dire, voilà, comment, quand on met des personnages dans un contexte qui n'est pas du tout leur, dans une histoire qui n'est pas la leur, qui a déjà commencé, c'est-à-dire que quand ils arrivent, on est déjà dans un cycle de représailles. Là, quand le livre commence, en l'occurrence, c'est l'armée française qui est dans un cycle de représailles, mais ça aurait pu être l'inverse. Et en fait, c'est un mouvement, et je voulais simplement que mes personnages, quand ils débarquent, c'est pour ça aussi l'intérêt de pas commencer le livre sur ça. D'un seul coup, de faire comme ça, paf, comme si on les avait lâchés en pleine nature, finalement c'est ça, dans une histoire qui a déjà commencé, dont il est très difficile de déterminer des tenants et aboutissants. Et donc voilà, ils sont là-dedans, ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Et ce que je voulais inclure là-dedans, c'était que leur vie personnelle, leur histoire, elle compte autant et qu'elle peut avoir aussi des conséquences. L'histoire aura des conséquences sur leur vie, mais leur vie a aussi des conséquences sur l'histoire. Je voulais faire travailler tout ça ensemble. Et donc, du coup, ça m'obligeait à ne pas parler d'énormément de choses, parce que plus on se documente sur un sujet aussi vaste que la guerre d'Algérie, plus on... c'est quelque chose d'énorme. Enfin, on pourrait écrire 10 000 livres sur ce sujet-là. Et sauf que la question n'est pas de... Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas moraliste, je ne suis pas sociologue. Voilà, moi, mon travail, c'est d'essayer de faire vivre une époque sans la faire vivre de manière pittoresque et anecdotique, et, mais d'un seul coup, de la faire vivre dans son tremblement, dans restituer quelque chose de quelque chose qui serait perceptible. Là où je suis pas historien, par exemple, c'est que je préfère la vérité romanesque à la vérité du roman, la vérité de mes personnages, de mon livre, à la vérité historique. C'est-à-dire que s'il faut supprimer quelques passages de l'histoire, s'il faut faire des ellipses pour le bien de la narration, je le ferai. Voilà, mon problème, il était dans cette construction-là. Il ne s'agissait pas de... construire un livre qui dirait tout sur le conflit algérien, sur ce qu'il faut en penser, pas en penser, ceci, cela. Moi, mon projet et mon problème, il n'était pas là. Il était de... Je sais que c'est un sujet qui est extraordinairement sensible encore aujourd'hui. Moi, mon angle d'attaque, c'était les appeler. Parce que, pour le coup, j'ai pas vu de fiction là-dessus. Et puis même si j'en avais vu, je l'aurais fait quand même. C'était pas la question. La question, c'était simplement de faire un livre que j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Donc sur ce rapport à la mémoire, une espèce de traumatisme collectif, mais vécu du coup d'un point de vue avec ce que ça a de ce que ça a de compliqué, c'est que je sais, par exemple, qu'on pourrait dire, ah oui, mais voilà, c'est un livre qui veut pas prendre parti, qui est comme ça, donc du coup, on sait pas ce que, à la limite, qu'est-ce que vous voulez nous dire. Moi, mon problème, c'était pas ça. Mon problème, c'était de restituer une violence, de restituer la peur, de restituer l'intelligence d'un moment, plutôt. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que sans rien savoir de la guerre d'Algérie, je sais pas, quelqu'un au fin fond de l'Amérique du Sud puisse lire ce livre et comprendre ce que c'est qu'avoir peur, comprendre ce que c'est qu'attendre quelque chose, dans l'expérience humaine, en fait. Moi, c'était ça, mon enjeu, il était là. Avec pour moi une obsession, et c'est aussi pour ça que c'était très difficile d'assumer de se lancer là-dedans. C'est vrai que c'est très délicat, et parce qu'on se dit oui, mais si on dit ça, par exemple, j'avais un problème dans la construction. Je voulais montrer ce cycle comme ça de représailles perpétuelles, mais c'était très difficile à faire. Si je mettais dans un certain sens, on avait l'impression on pouvait avoir l'impression, ça donnait un sentiment. Si je mettais dans l'autre, ça donnait un autre sentiment. Mmh. Et c'était pour moi très délicat d'essayer de briser ça, sachant qu'on peut pas, en tout cas en France, lire ça de manière indifférente.
Alors, puisqu'il est question justement de l'expérience, il y a, j'imagine, deux ou trois passages qui ont dû être extrêmement difficiles à construire et à relater. C'est l'expérience de l'horreur, finalement. Puisqu'il s'agit d'une guerre, il y a forcément il y a beaucoup de moments où il se passe rien, où il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup de peur aussi, objectivement peu justifiée, puisque le moindre bruit, effectivement, joue sur les nerfs de ceux qui sont de garde, etc. Mais il y a des moments où l'horreur saute au visage des personnages, et puis on voit bien, je pense, en lisant, on voit bien que c'est y a en même temps un questionnement sur qu'est-ce que c'est que rendre compte de ça, c'est-à-dire de l'indicible, en quelque sorte. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur comment tu t'y es pris pour finalement dire l'indicible?
Mais, en fait, la question, c'est, pour moi, à un moment, c'est, bon... voilà, j'ai vu beaucoup de documentaires, beaucoup d'images, et alors il y a beaucoup de témoignages, tout ça. Bon, et en vrai, il y a la question, si on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais
Moi, j'aime bien passer par le détour, tout ça, ne pas le fameux, le fameuse petite phrase de Coltès du personnage. Je ne dis pas que mon personnage est triste, je dis que mon personnage va faire un tour. Là, je me posais cette question. J'étais pas sûr que ce soit vraiment la réponse. Et je me dis, bon, est-ce qu'il faut assumer ou pas de montrer la violence? Et quelle forme de violence, etc. Comment on fait ça? Et puis, je me disais, ça me perturbait d'autant plus que justement, les photos de départ pour moi, les photos qui étaient celles de mon père, justement, il n'y avait absolument aucune violence dedans. Donc, du coup, c'était un petit peu un tabou et un interdit pour moi. Et puis, je me suis dit, mais non, je crois qu'il faut que je le fasse parce que. Il faut que je parle, il faut que je montre la violence parce que d'abord parce que la littérature a un pouvoir de distanciation qui fait que si c'est pas trop mal fait, ça sera pas putassier, ce que la télévision sait pas faire. Voilà, mais c'est un rapport comme ça, c'est un rapport aux images en fait, quoi. Et alors en écrivant la première scène dans le village, je me disais c'est marrant comment finalement la guerre dans les images qu'on en a, c'est d'une extraordinaire banalité. Et c'est toujours les mêmes clichés. Une attaque de village, par exemple, on en a vu 100 milliards de fois, on connaît les images par cœur. On voit très bien le vieillard, on voit très bien l'enfant, on voit très bien la femme levant les mains au ciel. Tout ça, c'est vraiment. Et pourtant, la violence, elle est réelle de ça. Donc pour moi, la question, c'était comment retraverser ces images-là en leur donnant la densité, je dirais pas émotionnelle, mais la densité de la puissance de vie et de terreur qu'il y a dedans. Alors, ma question, c'était entre autres faire ça. Et puis il y avait les moments sur la peur et sur la vie des soldats ce qui me posait un autre problème, c'est le problème du roman de genre. Et le roman, la guerre, c'est un genre, quoi. Bon, comme il y a le polar, il y a la guerre. Et alors dans la guerre, il y a le désert des Tartares. Alors le désert des Tartares m'a posé énormément de problèmes parce que pour l'ennemi qu'on attend, quand même, ça reste relativement imbattable. Donc j'étais très, très, quand même embêté. Je me disais, comment je fais? Moi, les gars, ils attendent, il se passe rien. Comment je fais? Ça a déjà été écrit. Je pense que j'aurais du mal à faire mieux. Et en plus de ça, la question est de parler de l'ennui et de pas être ennuyeux. Et dans quelques versions, je pense que j'étais très proche de l'ennui, mais. Pour le lecteur, quoi, pas pour le soldat, quoi. Donc ça, c'était compliqué. Donc c'est très bizarre. Alors après, la vie des soldats était très ritualisée. Et ça, justement, je me suis vraiment appuyé sur de la documentation où on a vraiment des emplois du temps hyper précis, quand même des gens. Donc ça, je m'en suis servi. Mais pour moi, ça comptait autant que ça comptait autant que la violence. La question après, c'est de rendre ça perceptible, de rendre ça sensible et intelligible en même temps, quoi.
Est-ce que tu lirais un
Ben,
passage de ton choix sur celui-là peut-être ou...
Oh là là.
Un extrait, tu prélèves ce qui
Ah,
te.
c'est dur à ouais, c'est non, c'est dur à lire ça. J'ai
Celui-là?
essayé, celui-là, c'est
Celui-là.
vraiment dur à lire, ouais. Parce qu'il y a des tirs, enfin pas des tirés, il y a des passages à la ligne. En fait, les passages à la ligne, c'est très dur à rendre compte. Moi, j'écris avec mes boules caisses comme ça, et chez moi, comme je suis comme ça, bon, ça marche, mais en public, si j'ai déjà essayé, j'arrive pas à le.
Il y a le médecin.
Le médecin, c'est. Oh, peut-être pas, hein, peut-être pas. Peut-être pas. Non, non, c'est un peu.
Et le camp.
C'est coincant.
Ah.
Non, le médecin, c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, le médecin, par exemple, c'est un truc ça, c'est quelque chose, par exemple, cette scène-là, c'est quelque chose que j'ai lu et dont j'ai vu la photo. La photo en question, elle existe. Moi, ce qui me passionnait dans cette histoire, c'était tous les points de vue sur ça, sur le conflit algérien. Qu'on le considère d'un côté ou de l'autre, moi je me suis renseigné absolument de tous les côtés, j'ai pris des infos de tous les côtés. Je suis allé internet sur ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis allé sur des sites d'extrême gauche, je suis allé sur des sites d'extrême droite. On trouve absolument tout ce qu'on veut dans tous les sens, et c'est extraordinaire comment on peut faire dire des choses différentes comment l'interprétation joue incroyablement. Et ça, c'était fascinant, terrifiant et en même temps très difficile du coup à manier, parce que l'écriture n'est qu'une interprétation de toute façon, quoi. Donc ça, c'était très délicat aussi. Donc 241, qu'est-ce que c'est 241?
Oh, tu vas vite retrouver, hein.
Là, ça serait à partir de là, c'est
ouais,
ça
si c'est quand ils arrivent.
Ah, c'est pas. Ça serait bien qu'il reste quelques personnes
ouais.
avant qu'on.
Oui, allez. Je sais pas.
Ah, non, parce que alors, c'est des scènes qui. Enfin. Disons que. Je sais pas, ça me gêne de lire.
De le prélever en
ça me gêne du, de lire oui. en public, parce que pour le coup, je trouve que ça deviendrait un peu voyeuriste et un peu télévisuel pour le coup.
Détaché du ouais. De l'ensemble.
Et en même temps, c'est intéressant parce que j'ai pas encore été confronté. C'est la première fois là, je suis confronté en public à la question de la lecture et j'avais pas réfléchi à ça. Mais je pense que pour une lecture intime, ce qui est personnel, ce qui est possible. En public, ça devient un peu obscène, mmh. en fait. Et là, lire en public une scène de guerre ou une scène d'amour, moi, ça me gênerait. Enfin, les deux, quoi. Mmh. Je suis bavard, mais timide en même temps.
Il y a aussi une chose qui est très présente dans cette question du retour et de la mémoire. Donc, c'est la façon dont il y a eu une sorte de refus. D'opacité totale de l'expérience de ces appelés. On voit ça très bien dans ton livre, l'incapacité à dire. Je pense au personnage de Février, par exemple, qui non seulement lui, il perd tout, hein, c'est quelqu'un qui perd celle qu'il désirait retrouver, c'était ce qui le tenait pendant ce conflit, et en même temps, il va se rendre compte que, ma foi, ce qu'il a vécu. Aux yeux de la population qui restait en métropole, c'est rien. En tout cas, c'est minoré. Et je crois que tu as beaucoup insisté là-dessus. L'idée qu'il n'y avait pas de. Et ça, les historiens le disent aussi. Il n'y avait pas un contexte qui était favorable au témoignage. De toute façon, il n'y a jamais de contexte favorable au témoignage.
Ouais, non, mais ça, moi, c'est. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait, mais finalement. Toute proportion gardée, ça n'a rien à voir, mais en même temps, c'est quand même très étrange que on se retrouve une fois encore avec des au XXe siècle, 15 ans après les gens qui ont été déportés, qui reviennent, qui n'ont pas pu parler, on se retrouve une fois encore avec des gens qui, pour des raisons absolument différentes, ne peuvent pas parler. Alors, il s'agit pas évidemment, c'est pas comparable. Mais quand même, il y a en commun cette expérience de comment la parole n'est pas possible à donner et comment la parole n'est pas possible à être audible et à être reçue. Et alors, c'est pour des raisons différentes, mais il y a le début des Trente Glorieuses et puis ces gars qui reviennent et qui ont subi des horreurs et qui en même temps ont peut-être commises, on ne sait pas trop. Alors c'est une espèce de dans les années 60, la France est en train de se reconstruire. Il y a pas un coin de rue qui n'a pas son progrès 2000 et son on y va, c'est l'avenir qui compte. Donc le truc, vous n'allez pas nous emmerder avec vos histoires, quoi. D'autant que bon,
c'est pas Verdun.
C'est pas Verdun. Il faut quand même pas oublier que les poilus, il y en a beaucoup en 60. Et puis eux, ils ont quelque chose.
la France a cristallisé quelque chose sur ça. Et puis, effectivement, le problème algérien, il est extraordinairement complexe, et même pour aujourd'hui. Le mot « guerre », par exemple, qui est reconnu en France, je crois, depuis 1999, ça veut dire guerre d'indépendance, donc guerre de libération. Donc, si on pense que c'est une guerre de libération, on pense donc, dans ce cas-là, alors les harkis, c'était des traîtres. Donc la France a eu raison de se comporter comme elle s'est comportée avec les harkis ? Bien sûr que non. Mmh. Mais donc tout ça est extraordinairement complexe. Et rapatrier des gens qui n'avaient jamais vu la France, il y avait quand même l'idée implicite qu'ils avaient déjà vu la France, sauf que non. Donc tout ça est... Et quand vous tombez là-dessus, que vous voulez faire un roman, vous dites « Ouh là là, qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je fais avec ça ?» Parce que c'est... on peut pas... Dans le film, dans L'ennemi intime, le documentaire de Rothman, je crois que c'est dans celui-ci, où il y a quelqu'un qui dit, par exemple, sur les pieds noirs, et moi ça m'a beaucoup intéressé ça, qui dit les pieds noirs avaient peut-être historiquement tort, mais leur douleur est historiquement réelle. Oui. Et je me disais, mais ça, c'est exactement pour moi la question de comment un romancier attaque ou pas une question. Moi, par exemple, en travaillant sur ça, en voyant les images, et puis en écrivant la scène à la fin du livre, du départ des soldats et du départ du pied noir, je me dis, mais quand même, c'est fou. Il y a un mot que j'ai jamais entendu, c'est le mot exode. C'est clairement un exode. Je n'ai jamais entendu ce mot-là. Et donc, moi, je veux dire, ça m'a permis quand même aussi, pour moi, après, comme ça, de tout revisiter et de me dire, tiens, c'est... Enfin, comment on est... comment on a été... surtout quand vous voyez après, par exemple, aussi en voyant la façon dont la même histoire a été transmise pour les gens de ma génération, les gens de 40 ans, comment les Algériens de 40 ans ont reçu... ont reçu leur guerre de libération. Mmh. C'est absolument incroyable. Parce on entend, mais mot pour mot, exactement la même chose que ce que nous on a pu entendre sur la libération par rapport par rapport à l'occupation allemande. C'est vraiment... Et les images sont des images que nous, on n'a jamais vues, etc. Comme le FLN a commis des exactions. Pas du tout, c'est pas vrai. Mmh. Si quand même. Et alors c'est d'un côté ou de l'autre, c'est effrayant comment c'est de la propagande et vous vous retrouvez avec des matériaux comme ça. Et c'est vrai que moi, franchement, mais bon, on sait la manipulation des images, on sait la manipulation de l'information. On le sait récemment pour la guerre en Irak, on a tous vu ça. Enfin, je veux dire, c'est un grand classique quand même. Et puis on sait aussi, par exemple, on le sait pour le Vietnam, on le sait pour... on sait qu'il y avait 400 reporters américains partis au Vietnam. Ils étaient plus, je ne sais plus combien, pour la guerre d'Irak. Mais enfin, c'était ridicule, quoi. À peine une trentaine et compartimentés, etc. Donc moi, après, écrivant là-dessus, ça me posait... En fait, j'ai encore moins confiance en l'humanité après avoir fait le livre qu'avant.
En tout cas, pour refaire le lien entre cette histoire collective et puis l'intimité, ce qui est intéressant aussi dans la manière dont tu as construit l'évolution, enfin la construction narrative de tes deux personnages principaux, c'est que finalement, ils sont extrêmement dissemblables, mais finalement, leur dissemblance, elle vient... disons que les effets collatéraux ou en tout cas les conséquences de ce qu'ils ont vécu se manifestent de manière à peu près symétrique, sauf qu'il y en a un où c'est une sorte de destruction apparente et l'autre il a construit une sorte de réussite mais il est détruit intérieurement. Finalement on voit ça aussi que personne ne sort indemne de ça et que la manière finalement d'en être très abîmé peut être très différente.
Disons qu'il y a pour moi il y a des mots qu'on emploie quand même assez régulièrement, du type intolérable ou insupportable, tout ça. Puis en fait, on s'aperçoit que dans la vie, les gens qui réellement ne supportent pas, bah, il n'y en a pas tant que ça. Des gens qui ne tolèrent pas l'intolérable, il n'y en a pas tant que ça. Et donc moi, c'était une question aussi. Alors c'est une question aussi liée aux mots, à l'usage qu'on a des mots. Et pour moi, les deux cousins, ils sont à mettre en parallèle. Il y en a un qui a trouvé des subterfuges pour se dire que la vie continue et on y va. Et puis l'autre qui a pas tenu le choc, mais et qui devient violent, raciste, enfin qui est quand même qui a pas mal de défauts quand même. Mais en même temps, le narrateur principal, quand il parle de son cousin, il en parle plutôt en mal, il l'aime pas. Mais à la fin du livre, il reconnaît peut-être que lui s'en est sorti, son cousin s'en est pas sorti, mais peut-être que c'est pas lui qui s'est montré le plus humain finalement. Est-ce que voilà, il se dit que peut-être qu'il a. Alors évidemment, à la fin, c'est une grosse remise en question.
Il y a même une culpabilité de s'en être sorti finalement.
De manière. Voilà, ben, bien sûr. C'est, ouais. Mais c'est parce qu'il s'en est sorti. Est-ce qu'il s'en est pas. En fait, il a mis le couvercle dessus. Il s'en est pas sorti.
Je crois qu'il y a quelques personnes qui souhaiteraient faire signer leur livre. Alors, comme l'heure tourne, on va peut-être mettre fin à cette rencontre. Remercier Laurent Mauvignier pour cette.
Merci à vous.
Et à bientôt. Merci.